Et bien, ça fait un peu rêver.
Belle expo.
Art Expo News, Stéphane Dubreuil.
Ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'explications là-dessus.
Ouais, très bien.
Exposition à l'affiche, rendez-vous culturel.
Ouvert en 2014, le musée des Confluences à Lyon se distingue par ses expositions imaginatives et engagées dans les débats de société. Découverte des peuples, réflexion sur nos origines, mise en majesté de la faune, de la flore, pour alerter encore et encore sur les dangers qui guettent, le visiteur est invité à réfléchir, à s'étonner et à admirer. Cette nouvelle exposition, intitulée « Sur la piste des Sioux », rentre parfaitement dans le projet du musée. Elle donne à voir en se posant des questions importantes sur les rapports que nous, Européens, avons construits avec les peuples qui vivaient et qui vivent toujours sur les terres que nous avons colonisées. Les Sioux que nous imaginons existent-ils? Comment ce peuple est-il entré dans nos imaginaires européens? Quelle image avons-nous construit d'eux? Qui voyons-nous? Est-ce des Indiens fantasmés ou de véritables hommes, de véritables femmes, porteurs d'une culture riche et singulière? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai rencontré Johan Cormier, qui est chargé de projet pour suivre cette fameuse piste des Sioux.
Alors le propos de l'exposition, il commence par un constat que le musée a mis en lumière à travers une étude auprès d'un institut d'opinion qui s'appelle le CREDOC. Et ce constat, c'est qu'aujourd'hui, l'imaginaire des Français autour des populations natives de la moitié nord, disons, du continent américain, il continue de tourner autour d'une figure un peu étonnante qui est la figure du Sioux. Alors quand je dis Sioux, je parle de l'Indien des plaines. Si je voulais être plus précis, je vous parlerai de Lakota. Lakota, c'est une nation indienne, pour faire simple, dans le Dakota du Sud. Et les Lakota, en fait, ont un certain nombre d'attributs qu'on connaît ici, qui sont la coiffe guerrière, cette fameuse coiffe de chef à plumes, bien évidemment le tipi, la chasse à l'arc, le calumet, etc. Et tous ces mots, associés au bison aussi, à la chasse au bison, et tous ces mots sortent encore dans l'étude qu'on a menée l'année dernière, comme étant l'imaginaire un peu partagé par la majorité des Français lorsqu'on évoque la question de ce fameux Indien d'Amérique. L'appellation est fort heureusement un peu désuète aujourd'hui, mais en tout cas c'était l'imaginaire qu'on souhaitait convoquer. Et on s'est posé la question de savoir pourquoi c'est le Sioux qui incarne à ce point cet imaginaire, alors qu'on parle quand même de centaines de nations indiennes à l'échelle d'un demi-continent, et que évidemment toutes ces cultures, toutes ces langues parlées, plus de 1000 langues parlées historiquement à travers le continent nord-américain, pourquoi toutes ces cultures avec des habitats qui ne se limitent pas au tipi, avec des tenues vestimentaires qui ne se limitent pas à la coiffe à plumes, pourquoi le Sioux incarne à ce point l'Indien d'Amérique?
Ce qui est intéressant, c'est que cette exposition, c'est pas uniquement une histoire des Indiens, c'est une histoire de notre regard sur les Indiens. Et vous le faites débuter évidemment avec la colonisation, en tout cas l'arrivée des Blancs. Il faut voir tout le début de l'exposition parce qu'il y a une iconographie qui est absolument somptueuse. Il n'y a pas d'autre mot, il y a des gravures originales, il y a des livres de Théodore de Brie, qui est un dessinateur exceptionnel du XVIIe siècle. On passe tout ça et on arrive à une immense salle qui présente une collection unique au monde, à mon avis, unique en Europe en tout cas, collection qui appartient à un collectionneur belge, qui est un ensemble de reliques, ou en tout cas d'habits, d'objets, qui ont été montrés, utilisés par des Indiens pendant le show de Buffalo Bill. Alors, comment c'est arrivé en Europe et qu'est-ce que c'est que ces shows de Buffalo Bill ?
Alors, effectivement, précisément, la collection de François Schleduc, à qui vous faites allusion, donc ce collectionneur belge qui nous a fait le plaisir de nous prêter cette collection extraordinaire, effectivement, par son histoire et aussi par sa conservation et son caractère unique et d'ensemble. En fait, cette collection, elle accompagnait précisément l'exposition universelle de 1935. C'était un village indien en 1935. L'idée même de cette exposition à Confluence, elle est née de cette rencontre avec François Schleduc. Parce que cette collection, en 1935, elle raconte... évidemment, une forme de représentation des Indiens, une forme de mise en scène d'une culture déjà. En 1935, il faut savoir que sur le territoire américain, on interdit aux nations indiennes de porter leur costume traditionnel, on leur interdit de porter leur langue. On est dans une logique d'acculturation des jeunes Indiens dans les pensionnats. L'idée, c'est de nier totalement les cultures indiennes. Il y avait un dicton à l'époque utilisé par le gouvernement américain, c'était... tuer l'Indien, sauver l'homme. C'est-à-dire, on comprend que c'est une logique d'ethnocide. On essaye de détruire totalement les référents culturels de cette nation, et de ces nations, pardon, qu'on a chassées de leur propre territoire. Et à l'inverse, en Europe, on joue la carte inverse, on joue le show, on singe un peu, on force le trait sur ces cultures, et ça s'incarne encore une fois à travers l'image du Sioux qui est présent dans les arènes de Buffalo Bill, vous l'avez dit, puis plus tard de cette collection de 1935. Et la possibilité d'exposer cette collection magnifique, hein, nous a donné l'envie d'aller raconter toute cette histoire des premiers colons européens qui ont posé le pied sur le territoire américain jusqu'au dernier film d'Hollywood qui nous raconte là aussi une forme de fiction liée à l'imaginaire indien.
Dans cette collection, je veux dire que comme tous les petits garçons, moi j'ai joué aux Indiens quand j'étais petit et ça fait rêver.
Oui, et puis c'est vraiment c'est en tout cas là l'archétype de l'Indien, c'est-à-dire que ces magnifiques coiffes de guerre, par exemple, c'est celles qu'on retrouve dans les films de John Wayne, c'est celles qu'on retrouve dans les grands westerns qui vont ponctuer comme ça près de 100 ans de cinéma, c'est celles qu'on retrouve dans toute l'imaginaire aussi l'imagerie publicitaire du XXe siècle, c'est la coiffe de bison futé pour les Français, et on voit à quel point ces shows ont marqué les consciences populaires. Vous parliez des shows de Buffalo Bill, et ce village en est l'héritier, ce village indien de 35. C'est plusieurs dizaines de millions d'Européens qui ont vu ces spectacles à l'époque. On l'a un peu oublié. Et bien avant le western, ça crée déjà comme ça, ça ancre un imaginaire. Et c'est vraiment le propos de notre exposition. C'est une sorte de représentation.
On termine l'exposition sur un ensemble de films. On découvre que l'image de l'Indien, on part du sauvage jusqu'à un être humain, un homme, dans toute sa grande définition. Est-ce que votre exposition peut... J'allais dire donner un peu d'espoir ou d'optimisme sur le devenir des nations indiennes qui sont quand même toujours un peu maltraitées et dont l'avenir est malgré tout difficile.
Le propos principal, c'est la représentation, mais c'est vrai qu'on a un parcours secondaire qui est un parcours historique. On a voulu présenter réellement, à travers un certain nombre de dates, de l'évolution des lois aussi américaines, quel était le sort réservé aux populations natives depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Et on arrive sur la dernière borne de 2010 à 2020, avec l'actualité de ces nations-là, un certain nombre de revendications, de prise en main aussi d'un certain nombre de nations qui revendiquent de plus en plus leur culture. Ceci étant dit, évidemment, le tableau n'est pas tout blanc et c'est une histoire qui reste à écrire. Nous, on espère que cette histoire-là, ça va être optimiste. Mais c'est vrai qu'il y a des situations dramatiques. Il faut quand même rappeler que les réserves amérindiennes sont les endroits où il y a le plus de misère aux États-Unis. C'est vraiment un monde dans un monde qu'on connaît peu ici, à part quelques reportages sur cette réserve de Pine Ridge qui est assez médiatisée et qui connaît malheureusement des problèmes d'alcool, de drogue, d'obésité, de malnutrition. Enfin, vraiment des choses qui sont dures et qu'on connaît un petit peu plus aujourd'hui. Mais le sort des nations indiennes est quand même assez dramatique. Sauf que la bonne nouvelle, c'est qu'un certain nombre de jeunes générations reprennent en main leur culture. J'en veux pour preuve, par exemple, chaque année, la cérémonie d'anniversaire de cette grande bataille, grande victoire indienne de Little Bighorn, où un certain nombre de jeunes Indiens sont fiers de se replonger dans leur histoire. Et malgré cette rupture de transmission culturelle qui a été voulue par les autorités américaines, hein, cet ethnocide, encore une fois, et ben les jeunes Indiens arrivent à se réapproprier des éléments de leur propre culture. J'espère que cette exposition donne envie, en tout cas, de s'intéresser davantage à ce qu'est la réalité de ces cultures-là, et pas seulement, enfin, de dépasser le stéréotype, encore une fois, hein, qui est toujours en cours, malheureusement, mais d'attiser la curiosité, en tout cas.
Et ben merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
L'exposition sur la piste des Sioux se tient au Musée des Confluences à Lyon jusqu'au 28 août 2022. On va mettre toutes les informations sur le site de la radio. Et enfin, ne quittez pas ce magnifique musée sans visiter les collections permanentes. C'est un mélange de cabinets de curiosités, de musées de sciences naturelles, d'histoire et d'ethnologie. Entre les momies, les fossiles, les animaux naturalisés, les costumes et les objets glanés dans le monde entier, le voyage est spectaculaire.
Et bien, ça fait un peu rêver.
Belle expo.
Art Expo News, Stéphane Dubreuil.
Ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'explications là-dessus.
Ouais, très bien.
Exposition à l'affiche, rendez-vous culturel.